15. Le mercredi 2 juin 2010 est une belle journée. L'air est doux et le ciel dégagé. On est peut-être encore au printemps selon le calendrier, et l'année scolaire n'est peut-être pas encore terminée, mais tout ça ne change rien au fait que c'est un jour d'été parfait en plein cœur de l'Amérique. Bill Hodges, en costume, mais encore merveilleusement libre de toute cravate, est dans son bureau, parcourant une liste de cambriolages de voitures que Marlowe Everett lui a envoyée par fax. Il a imprimé une carte de la ville et marque d'un point rouge tous les lieux des vols. Il aura de la marche à faire dans un futur très proche, peut-être même beaucoup de marche si l'ordinateur d'Olivia ne donne rien. Mais il se peut tout à fait que certaines des victimes aient repéré un même véhicule, parce que Mr. Mercedes devait observer les propriétaires des véhicules ciblés. Hodges en est certain. Il devait s'assurer qu'ils étaient partis avant de déverrouiller leur voiture avec son gadget. Il les a observés comme il m'observe moi, se dit Hodges. Ça déclenche quelque chose dans son esprit, l'étincelle d'un début d'association d'idées, vive mais évanouie avant qu'il ait pu identifier ce qu'elle essayait d'illuminer. C'est pas grave. S'il y a vraiment quelque chose à en tirer, ça reviendra. En attendant, il continue de repérer des adresses et de dessiner des points rouges. Il lui reste 20 minutes avant de devoir nouer sa cravate et de partir rejoindre Janet. Brady Hartsfield est dans sa salle de contrôle. Pas de migraine aujourd'hui, et ses pensées, si souvent embrouillées, sont aussi nettes que les différents fonds d'écran de la horde sauvage de ses ordinateurs. Il a retiré les blocs d'explosifs de son gilet suicide et a délicatement déconnecté les câbles du détonateur. Certains des blocs ont atterri dans un coussin rouge vif, flanqué de l'élégant slogan « Pose ton cul ». Il en a glissé deux de plus, remodelés en cylindre et reliés au détonateur, au fond d'une poche urinaire Urinesta bleu fluo. Ceci accompli, il appose soigneusement un autocollant sur la paroi de la poche. Il l'a acheté hier, ainsi qu'un t-shirt souvenir à la boutique du Mac. L'autocollant dit « Fan numéro 1 des Round Here ». Il consulte sa montre, presque 9 heures. Maintenant, le gros tas de vieux flics n'a plus qu'une heure et demie à vivre. Peut-être un peu moins. L'ancien coéquipier de Hodges, Pete Huntley, est assis dans une des salles d'interrogatoire. Non parce qu'il a des gens à interroger, mais pour se mettre à l'écart de l'agitation du matin et du va-et-vient incessant des bureaux de la brigade. Il a des notes à relire. Il doit tenir une conférence de presse à 10 heures sur les dernières et sombres révélations de Donald Davis, et il ne veut pas foirer. Le tueur du City Center, Mr. Mercedes, est la moindre de ses préoccupations. À Lowtown, à l'arrière d'une boutique de prêteurs sur gage, des armes sont vendues et achetées par des trafiquants se croyant à l'abri des regards. Jérôme Robinson est à son ordinateur, cherchant des clips audio sur un site internet appelé Le Son Juste. Il écoute un rire de femme hystérique. Un type sifflait « Danny Boy », un autre faire des gargarismes et une femme apparemment en proie à un orgasme. Enfin, il trouve le son qu'il cherchait. Le titre est simple « Pleurs de bébé ». Au rez-de-chaussée, Barbara, la sœur de Jérôme, déboule en courant dans la cuisine, suivie de près par Odelle. Elle porte une jupe pailletée, des sabots bleus à la semelle qui claque et un t-shirt avec la photo d'un adolescent beau gosse. Sous son sourire éclatant et sa coiffure étudiée, il y a écrit « Cam Forever ». Elle demande à sa mère si cette tenue ne fait pas trop bébé pour le concert. Sa mère, se souvenant probablement de la tenue qu'elle-même portait à son premier concert, sourit et lui dit que c'est parfait. Barbara demande si elle peut lui emprunter ses longues boucles d'oreilles « Peace and Love ». Oui, bien sûr. Son rouge à lèvres. Oui, pourquoi pas. De la poudre à paupières? Ah non, désolé. Barbara rigole d'un air de dire « qui ne tente rien à rien » et lui fait un énorme câlin. « Il me tarde trop d'être demain soir, » dit-elle. Holly Gibney est dans la salle de bain de la maison de Sugar Heights, souhaitant désespérément pouvoir échapper à la cérémonie d'hommage, sachant pertinemment que sa mère ne l'y autorisera jamais. Si elle oppose le fait qu'elle ne se sent pas bien, sa mère lui balancera un de ces retours de service dont elle a le secret depuis l'enfance de Holly. Qu'est-ce que les gens vont penser ? Et si Holly lui opposait qu'on se fout de ce que pensent les gens, qu'elles ne les reverront jamais de leur vie, à l'exception de Janet, sa mère la regarderait comme si Holly parlait une langue étrangère. Elle prend son Lexapro, mais son estomac se noue pendant qu'elle se brosse les dents et elle vomit le médicament. Charlotte l'appelle et lui demande si elle est bientôt prête. Holly lui répond oui, bientôt. Elle tire la chasse et se dit « Au moins, il y aura le petit ami de Janet. Bill, il est gentil. » Janet Patterson est en train de s'habiller méticuleusement dans l'appartement de sa défunte mère. Collant noir, jupe noire, veste noire, sur un chemisier du plus profond bleu nuit. Elle repense à ce qu'elle a dit à Bill, qu'elle tomberait probablement amoureuse de lui si elle restait. C'était un fabuleux euphémisme, car elle est déjà amoureuse de lui. Elle est sûre que ça ferait sourire un psy qui lui parlerait de complexe d'Œdipe. Sur quoi, Janet sourirait en retour et répliquerait que tout ça, c'est que des conneries freudiennes. Son père à elle était un comptable chauve qui n'était quasiment jamais là, même quand il y était. Et s'il y a bien un truc que l'on peut dire de Hodges, c'est qu'il est là. C'est ce qu'elle aime chez lui. Elle aime aussi le chapeau qu'elle lui a acheté, ce Borsalino à la Philip Marlowe. Elle regarde l'heure et voit qu'il est 9h15. Il a intérêt à arriver bientôt. Sinon, elle le tue.